RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye.
Et oui, s'il y a bien un organe qui symbolise le masculin, c'est la prostate. Pourtant, peu d'hommes, et on en a encore eu la preuve avec Éric Brunet, s'en intéressent avant que cette dernière ne se manifeste, justement parce qu'elle ne se porte plus très bien. Alors, à quoi sert-elle exactement? Quel est son rôle dans la sexualité? Michel Schumann est urologue, andrologue, sexologue, chirurgien, et donc il pourra tout à fait répondre à cette question. Est-ce qu'il faut aussi systématiquement opérer du cancer de la prostate? Je sais que sur ce point, les avis sont partagés, donc on évoquera peut-être aussi ce sujet. Et puis bien sûr, on pourra évoquer ce fameux massage prostatique qui provoque des sensations voluptueuses à nul autre pareil, mais qui reste encore bien tabou pour de nombreux hommes. Et si vous êtes adepte justement de ce massage de la prostate, eh bien, venez témoigner, ça aidera peut-être d'autres hommes à oser essayer. Et puis bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur votre prostate, n'hésitez pas à nous rejoindre pour poser vos questions. Et pour cela, un seul numéro, le 3216. Après 15h20, notre guide sera Gabriel Perlemutter. Et avec lui, on parlera d'un autre organe tout aussi important pour notre santé. Et il nous expliquera à quel point notre intestin est le baromètre de notre santé. Oui, cet organe n'est peut-être pas suffisamment apprécié non plus. Et pourtant. Bon, en tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus et de lui poser une question, c'est également en composant le 3216. Au programme également, notre fil d'Ariane proposera des solutions testées scientifiquement pour prévenir le cancer de la prostate. On continue avec notre nouveau rendez-vous, comment résister à la tentation. Je vous donnerai une autre clé aujourd'hui. Et Camille a testé pour nous une boîte de jeu pour jouer en couple, mais de jeux coquins bien sûr. Et notre love conseil du jour, je vous proposerai 5 leçons pour mieux faire l'amour. Michel Schumann, bonjour.
Bonjour Brigitte.
La prostate, bon... Oui. Pour vous, c'est du familier de familier. Hein.
Heureusement.
C'est votre quotidien, pourrait-on dire.
C'est mon quotidien, celui de mes patients surtout.
Oui. Alors, c'est vrai, je l'ai remarqué, quand on pose une question à un homme qui va bien sexuellement, physiquement, la prostate, bon, ben oui, bon, quoi.
Voilà. Oui, il connaît le mot, mais...
Et encore, à peine. Pourtant, dès que ça va pas bien, ça peut quand même être sérieusement handicapant.
Ah, ça peut être empoisonnant, oui. Et ça dépend des âges, mais on va en parler, je vous laisse.
Alors à quoi ça sert la prostate dans la sexualité, Michel Schumann?
Alors la prostate, ça sert d'abord à faire vivre les urologues, ce qui est quand même très important.
Oui, c'est d'accord. Et puis, je reconnais votre humour.
Et puis deuxièmement,
vous savez, avec la population vieillissante, vous êtes tranquille, hein, Michel Schumann.
Un peu plus sérieusement, la prostate, ça fabrique une grosse partie du liquide séminal. C'est-à-dire ce qui entoure les spermatozoïdes au moment de l'éjaculation, ça leur donne à manger, si vous voulez.
Oui, c'est ça. Ça leur permet de nager et ça les nourrit.
Ça leur permet de nager, ils sont contents.
Voilà. Donc, a priori, ça va bien. Et quand la prostate commence à poser problème, c'est généralement parce qu'on est vieillissant,
Il y a différentes façons d'être embêté par sa prostate. Effectivement, la prostate, ça va bien. Normalement, c'est un organe qui parle pas, comme on dit. Hein. Il y a un grand médecin qui avait dit la santé, c'est le silence des organes.
C'est
très bon.
Et c'est très juste en plus.
Absolument. Et alors la prostate, elle parle pas. Et quand elle parle, ça va pas. Alors elle peut parler à différents âges. En gros, si vous voulez, il y a les maladies inflammatoires ou infectieuses. Ça peut toucher des sujets jeunes, puisque ça peut aller même, on peut rentrer ça avec certaines maladies sexuellement transmises. Mm-hmm. Après, un petit peu plus tard, la prostate peut gonfler. Et quand on a une quarantaine d'années, quoi. Mais quand elle gonfle progressivement, elle devient un peu obstructive. On peut avoir des difficultés à uriner ou uriner trop souvent, avoir du mal à se retenir. Mm-hmm. Et puis, de temps en temps, il peut se développer dessus un cancer. Et le cancer, lui, ne donne pas de signes
avant-coureur.
C'est quand il devient gros qu'il donne des signes. Donc, il vaut peut-être mieux quand même le dépister. J'ai pas dit qu'il fallait tous les traiter et tous les opérer. J'ai dit qu'il faut peut-être mieux le dépister et avant qu'il ne soit trop tard.
C'est ça. Alors, on va en parler, bien sûr, avec vous. On va parler aussi, peut-être, du massage prostatique, qui, paraît-il, est très voluptueux. Je crois que c'est vraiment le mot qui convient.
On appelle ça le point P, hein, comme vous savez. Le massage prostatique, médicalement, on le fait en laboratoire, en bactériologie, dans certains cas, pour récupérer les sécrétions prostatiques quand on a du mal à trouver les microbes, entre guillemets, qui gênent un patient. C'est pas très agréable dans ce contexte. contexte-là. Dans le contexte amoureux, certains hommes aiment ça, d'autres n'aiment pas le fait que la partenaire puisse introduire un doigt ou un objet et appuyer sur la prostate, notamment au moment de l'éjaculation. Il y en a pour qui l'éjaculation et le plaisir de l'éjaculation est augmenté quand on leur masse la prostate.
Voilà. Alors après, on ne sait jamais hein, si c'est une question de tabou, d'inhibition ou de cas particulier, mais bon, après tout, tout le monde a le droit d'essayer, et puis si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, si ça vous plaît, ça vous plaît. Hein. On n'est pas là non plus pour imposer quoi que ce soit. Didier est avec nous. Bonjour Didier.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ? Bonjour docteur.
Bonjour Didier. Nous allons bien.
Eh ben, écoutez, moi aussi.
Ah ben, tant mieux. Alors, vous avez été opéré hein, de la prostate.
Voilà,
Didier.
J'ai appris mon cancer de prostate à 56 ans, à la veille de mon anniversaire, qui est au mois de mai. Et bon, j'ai été opéré d'une prostatectomie
radicale, c'est difficile
voilà.
À dire.
Et par une antenne médicale que je remercie, et je sais que le professeur qui m'a opéré est à l'écoute, hein, quand je lui dis que je passe à l'antenne, qui est un docteur sur Pellegrin à Bordeaux, donc qui a été vraiment formidable. Mmh. Et c'est vrai que quand on apprend, quand ça vous tombe dessus comme ça, moi j'avais ce qu'on appelle un cancer par plage évolutif.
Oui, ça me parle pas, mais...
Voilà, c'est-à-dire que j'avais des PSA qui n'étaient pas exagérés. C'est pour ça que bon, il faut toujours conseiller aux gens de se faire voir régulièrement. Parce que j'avais un PSA qui n'était pas énorme, qui était de 4,2 avec un ratio de 13.
Alors, normalement, Michel Schumann, on devrait faire l'examen tous les deux ans après 50 ans, c'est ça ?
Oui, alors ceux qui sont anxieux font tous les ans, d'autres font tous les deux ans. Ça dépend aussi s'il y a des facteurs de risque
dans la famille.
Mmh. Oui, ou des facteurs ratios, parce qu'on sait que les populations noires font plus de cancers en général et plus de cancers de prostate aussi. Et ils les font plus jeunes.
D'accord.
Bon. Voilà, pour moi, dans la famille, j'ai pas connu mon père, donc c'était déjà beaucoup plus compliqué. Et voilà, j'ai été opéré donc en mai 2008, et ensuite on m'avait conseillé donc de faire des injections d'EDEX.
Oui.
Voilà, qui m'ont beaucoup aidé. Je n'ai pas fait ça pour des rapports. J'ai fait ça pour alimenter un peu les canaux caverneux. Hein. On me disait voilà qu'il fallait redonner un petit peu vie à tout ça pour pas que ça se nécrose. Et en 2011, ça n'a pas évité. J'ai fait une récidive importante. Donc là, après, j'ai été soigné par radiothérapie avec 53 séances.
Mmh.
Et aujourd'hui, bah, écoutez, les bilans sont exceptionnels. Enfin, je dois beaucoup à une antenne médicale, que ce soit radiothérapie sur Poitiers et l'opération qui s'est faite sur Bordeaux, qui a duré, parce que moi, ça m'avait fait en plus envahir le rectum, et ça m'avait dégénéré sur le foie.
Oui, donc c'était important quand même.
Voilà, c'est assez important. Enfin, j'avais vu deux professeurs au départ. Et c'est vrai qu'il ne faut jamais s'arrêter à un avis ou deux avis. Il faut continuer, il faut se battre. Excusez-moi, je suis un peu ému. Parce que les deux professeurs m'avaient dit de vivre tout ce que j'avais à vivre avec ma famille, qui ne voulait pas me toucher. Parce qu'en opérant, soi-disant que ça pouvait accélérer le processus cancéreux. Alors j'avais vu un Nantes, un autre à Toulouse. Et je suis allé voir un professeur à Bordeaux qui m'a dit, voilà, si on n'essaye pas, si on ne va pas voir, je ne saurais pas. Donc on m'a opéré le 30 mai 2008, une opération qui a duré qui était très longue. Aujourd'hui, je remercie tous ces gens-là parce que je suis en vie et tout va bien, quoi.
Bon, vous savez, sans avoir connaissance du dossier, je peux pas vous donner beaucoup d'avis. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a différentes méthodes, que la chirurgie fonctionne bien. Quand la chirurgie, surtout chez quelqu'un de jeune, si la chirurgie a été insuffisante, on peut compléter par les rayons. Alors que dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Si on fait les rayons d'abord, c'est plus difficile d'opérer après. Du coup, on perd une cartouche. Donc pour quelqu'un qui est jeune, on préfère opérer d'abord. Quitte à rattraper avec la radiothérapie ensuite. Et puis après, il y a les traitements hormonaux. Je veux dire que c'est une maladie qu'on maîtrise très très bien. Il y a des chimiothérapies, il y a toutes sortes de traitements très très multiples. Mais ce qui me semble important de votre témoignage, c'est que vous avez eu d'emblée, d'abord la volonté de le faire et de guérir, et deuxièmement, la volonté de préserver ce qui vous permettrait une activité sexuelle éventuelle. En faisant voilà. Les injections d'EDEX, même si sur le moment vous ne voyez pas que ce n'était pas à visée sexuelle, de savoir que cet organe continuerait de fonctionner.
Voilà, et il faut dire aussi que la partenaire est très importante quand on parle de sexualité après un choc comme celui-ci, quoi. La partenaire est très importante également. Moi, je sais que j'ai une partenaire et, vous voyez, on m'avait d'abord voué une sexualité. On m'a dit, il va falloir revoir votre sexualité de A à Z. Et aujourd'hui, j'ai une sexualité qui est même plus que normale. Je dirais même pratiquement débordante. Mmh. Enfin, voilà, mais tout se passe très, très bien. Mais je crois que la partenaire est également un sujet très important pour l'homme dans des moments comme ça. Quoi. Il ne faut pas condamner l'homme. Voilà.
Mais absolument, Didier. Mais en tout cas, je pense que vous aviez envie de transmettre un message tout à fait positif et je crois qu'on peut vous en remercier.
C'est un beau témoignage.
Merci beaucoup, Didier. Bernard, maintenant, est avec nous. Bonjour, Bernard.
Bonjour, Brigitte. Bonjour, votre invité.
Bonjour, Bernard.
Alors, moi aussi, j'ai commencé par le PSA qui avait augmenté. J'ai fait à Pellegrin, un Durcy. Le chirurgien m'a dit, il y en a partout. Bon, il faut des métastases partout. Donc, opération, ablation. Allô?
Oui, on vous écoute, oui, Bernard.
Voilà. Donc, ablation de la prostate, ça fait 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. Donc, après, bon, pour les érections, avec l'ordonnance pour les fameuses piqûres.
Oui.
Voilà, qui sont assez douloureuses quand même, hein, faut pas.
Ça dépend.
Faut pas, voilà. Ah, faut pas bien les faire.
Il vaut mieux.
Oui, voilà. C'est vrai, c'est efficace. Et après, j'ai essayé la fameuse pommade qui est sortie il y a un an, un an et demi.
Oui, le Vitaros,
voilà.
Oui.
Mmh. Voilà, Vitaros. Pour l'instant, c'est moins efficace, hein, un petit peu moins.
Il semblerait que ce soit un peu moins efficace.
Voilà, ouais. C'est ça, voilà. Moi, ce qui est depuis la blessure de ma prostate, le matin, j'ai des érections, des demi-érections, tous les matins.
C'est bon signe.
Voilà. Mais je n'ai plus aucun rapport sexuel depuis cette opération. Donc, je ne sais pas si c'est ce que ça donne. Voilà.
Bah, il faudrait essayer.
Oui, mais voilà, mais bon, il faudrait que je trouve une partenaire.
Ah bah oui.
Et puis maintenant, on peut même plus aller voir les putes maintenant. Mmh. Alors ça devient compliqué.
Non, c'est interdit. Oui. En cachette. Faut pas
oui,
voilà.
On n'a rien dit, Bernard. Hein, on n'a rien.
Faut pas se faire prendre. Non, mais voilà. Donc, j'arrive à me masturber. Mmh. Et alors là, mon problème, c'est que à un moment de la jouissance, hein, ça n'a jamais été aussi fort. J'ai le cœur, il fait un bon.
Beaucoup de patients me disent ça, qu'après l'opération, ouais, ils ont des orgasmes plus forts qu'avant l'opération.
Ouais. Ah oui, c'est
et
incroyable.
Alors, comment on explique ça? C'est incroyable.
Je ne l'explique pas, mais ça fait partie des choses qu'on me rapporte régulièrement.
Vous êtes tellement content de pouvoir encore y arriver que ça jaillit encore plus fort, voilà.
Mais oui, voilà.
Ça doit être ça.
J'ai la patate, là, le fait un bon. Oui. Je dois 2 ans à l'heure, hein, je crois.
En tout cas, vous avez une bonne humeur qui fait bien plaisir à entendre, Bernard.
Oui, il faut relativiser, voilà.
Oui.
Voilà. Bon, le principal, c'est que je fais encore les contrôles de PSA, ça ne bouge pas. En cas, on ne sait jamais si ça n'est pas propagé.
Si ça ne bouge pas, c'est bon signe. Et si ça bouge, on peut faire quelque chose. Donc, de toute façon, il ne faut pas se désespérer.
Voilà. Bon, j'espère. Et il n'y a pas un autre moyen de faire un branchement pour non, il y a un petit.
Un branchement pour faire. Qu'est-ce que vous voulez brancher?
L'éjaculation.
Ah, pour l'éjaculation. Il n'y a plus comme on l'a dit, la prostate, elle fabrique une grosse partie du sperme et en plus, on coupe les canaux qui conduisent au stock de sperme. Donc, il n'y a plus de sperme.
Ah, plus du tout.
Ben non. Enfin, il y en a un petit peu dans les fabriqués au niveau des testicules, hein, mais il ne peut pas être sorti. Les vésicules séminales, c'est-à-dire qui sont des réservoirs de sperme, sont enlevés en même temps que la prostate.
D'accord. Ah ben voilà, ça m'a appris quelque chose de nouveau, je ne connaissais pas.
Ben voilà, c'est pour ça qu'on en fait une émission aujourd'hui sur la prostate, parce que c'est vrai que finalement, il y a plein de détails qu'on ne connaît pas forcément.
Ah, oui.
Donc c'est normal que vous n'ayez plus d'émission de sperme. Là, et c'est pas, enfin, je veux dire, ça n'enlève rien au plaisir.
Oui, bien sûr. Le principal, c'est de toutes les personnes qui ça arrive, de garder, de ne pas déprimer. Au départ, je n'aime pas déprimer, c'est sûr. Hein, ça fait un bon.
C'est jamais une bonne nouvelle,
voilà.
Hein, mais
voilà,
vous savez qu'on peut y faire quelque chose. Voilà.
Voilà. Donc, quand le chirurgien m'a dit ça, il m'a dit il faut tout enlever, sinon, ça va. Il n'y a plus rien à faire, quoi. J'ai un collègue qui, lui, il n'a pas été opéré, ils ont fait la chimio. C'est pas un cadeau, hein.
Mais ça dépend des cas.
Voilà, lui, ça, il a les seins qui poussent, le pauvre, là, il est désespéré.
Non, ça, c'est plutôt des hormones, ça. C'est pas de la chimio, c'est de l'hormonothérapie, ça, oui.
Voilà, alors, voilà, c'est ça.
Les seins qui poussent, c'est pas.
Ah, ouais, c'est. Mais comme moi, mais ça va. Bon, faut le prendre comme ça, là, la vie. Et le principal, c'est que ça ne se propage pas. C'est ça, ça a été fait assez rapidement avant que ça aille plus loin. Ça peut beaucoup aller plus loin, la prostate. Hein,
mais bon. Tout va bien, Bernard. Et on vous souhaite une bonne santé encore pour une bonne vingtaine d'années.
Continuez bien.
Merci, Bernard.
Merci, bonne journée à vous. Merci, Brigitte. Au revoir.
Au revoir.
Bonne invité. Au revoir.
On continue avec Didier. Bonjour, Didier. Oui, Didier, vous êtes avec nous sur RMC. Si vous voulez qu'on entende tout ce que vous dites, il n'y a pas de souci. Mais là, vous êtes en direct, ça y est. Mmh. Bonjour, Didier.
Voilà, puis moi, j'ai ma copine, ça se passe.
Bon, j'ai déjà pris Didier, donc c'est moi qui suis plus tout à fait à l'ordre du jour. On va prendre Marie alors. Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Bonjour,
bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Schumann.
Bonjour Marie.
Alors j'avais une question, mais c'était par rapport au livre du docteur Permuter. Donc je ne sais
ah,
pas.
Ah bah écoutez, on vous reprend tout à l'heure Marie,
oui,
parce
voilà,
qu'il est.
C'est pour ça que je comprenais pas trop.
Moi non plus. Donc ne vous inquiétez pas, on vous rappelle tout à l'heure quand il sera là, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde.
Je pense. Merci.
Merci à tout à l'heure Marie. Bon, ben voilà, la preuve qu'on est en direct,
voilà.
Michel Schumann.
Il y a eu une querelle intestine.
Bravo, vous êtes vraiment en forme aujourd'hui, Michel Schumann. Allez, l'onde positive du jour. On va parler du consentement. Vous savez, on parle toujours au sujet des filles comme s'il était évident que les garçons étaient toujours consentants. Et je voulais juste rappeler qu'un homme, oui, ça peut bander et pourtant ça peut ne pas être tout à fait consentant. Voilà, le consentement n'est pas forcément signe de d'érection ou de fait que la femme mouille. Il faut peut-être être toujours un peu plus à l'écoute du désir de son partenaire.
Et oui.
On se retrouve dans quelques instants. Vous avez vous aussi des questions à poser sur la prostate. Si vous avez envie de parler du massage prostatique, on vous attend au 32-16.
Boulanger, directeur, chauffeur de taxi, ingénieur ou routier, tous chez Brigitte sur RMC.
Nous sommes avec Michel Schumann, andrologue et urologue. On évoque aujourd'hui donc la prostate, ce petit organe masculin, je dis bien masculin, bien qu'on parle un peu de temps en temps d'une prostate féminine, notamment lorsqu'on évoque les femmes fontaines. Mais bon, je crois qu'on ne peut pas comparer.
Non, c'est pas comparable.
Évidemment. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions éventuellement à poser, on est là pour y répondre. Enfin, surtout Michel Schumann d'ailleurs. David, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité.
Bonjour David.
J'écoute régulièrement votre émission qui est très 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 intéressante sur différents sujets. Et en fait, moi j'appelle, j'ai 51 ans bientôt, je fais beaucoup de voitures et l'année dernière j'ai eu des soucis de prostatite aiguë. Ils ont découvert un adénome, donc j'ai été traité pendant 3 semaines quand même à l'hôpital parce qu'ils ont eu du mal à trouver. Et en fait, bon là, ça a passé, mais pas plus tard que la semaine dernière, j'ai refait une autre crise et j'ai repris des médicaments. Mais malheureusement, j'ai fini le traitement et j'ai laissé l'ordonnance à la maison, donc j'ai plus le nom. Et on m'a dit de boire beaucoup au volant, donc j'ai toujours 2 litres d'eau dans la voiture, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai ces crises-là de temps en temps, quoi. Et on me parlait de drainage de la prostate, mais sans détailler, quoi, sans détail.
Ben, on peut pas beaucoup vous le détailler. C'est vrai que la prostatite, c'est la première chose dont je parlais tout à l'heure. C'est une des maladies qui peut arriver même chez les sujets jeunes.
Oui.
Et c'est vrai que le problème, c'est que c'est souvent récidivant. Et il faut que ce soit très bien soigné tout de suite la première fois avec des doses d'antibiotiques très fortes et traité assez longtemps. On traite au moins 3 semaines, parfois 6 semaines.
D'accord.
Et puis, si on fait ça, ça peut guérir complètement. Et de temps en temps, si, même en faisant comme ça, ça guérit, mais pas complètement. Il reste un petit foyer, un petit quelque chose qui peut se réveiller de temps à autre.
D'accord.
En fait, c'est une infection qui va être vaincue et puis peut-être qui y a un petit endroit qui va rester encore comme du feu sous la cendre. Quoi.
Mais oui, la prostate c'est un organe plein, c'est pas un organe creux comme les voies urinaires ou le sang où quand il y a une infection, il y a le liquide qui s'évacue, qui s'élimine. Là, ça reste dedans. Hein, ça ne sort que quand il y a des sécrétions séminales qui sont fabriquées et qui sont évacuées. C'est-à-dire
D'accord.
quand on a un rapport sexuel, une masturbation, une éjaculation.
Donc, il faut conseiller 5 masturbations par jour
voilà,
à David.
Par exemple.
D'accord.
Bon, je vous envoie une ordonnance.
D'accord.
Bah, je ne sais pas si vous avez besoin d'une ordonnance, David. Hein,
ça ne coûtera pas cher à la sécu, ça au moins.
Mais il n'y a pas de risque de cancer, je veux dire, plus tard.
Non, pas plus. C'est une maladie complètement différente. Ça ne présage pas de l'avenir.
Parce que là, j'ai eu un médicament pendant un mois, ça me revient. Là, j'ai eu du Toviaz à un moment.
Bah ça, c'est pour uriner un peu moins souvent, pour être un peu plus confortable dans la journée.
Bon. Voilà.
Oui, parce qu'en plus, si on vous dit de boire beaucoup...
Oui, après, vous passez votre journée aux toilettes. Quoi.
Mm-hmm. Bah, oui, tout à fait. Et on m'a dit aussi de diminuer le vélo, en l'occurrence VTT ou autre, où ça vient forcer sur la prostate et c'est pas très bon. Donc,
D'une façon générale, si vous avez un problème prostatique un peu récurrent, et vous avez intérêt à faire attention à certaines choses. Le vélo, c'est vrai que c'est pas extra. Et puis, dans l'alimentation, vous avez le tabac est très mauvais pour les voies urinaires.
Je ne fume pas.
Bon, les épices, le café.
Ah, le café, ça j'en prends, donc je vais arrêter.
Prenez du DECA. D'accord. Il y a déjà beaucoup moins de caféine, le thé est léger. Et puis, dans les boissons alcoolisées, la bière est très irritante, les vins blancs, le champagne, bien sûr, malheureusement, et puis les alcools forts. Alors, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste quand même les vins rouges, il y en a pas mal, hein. Et d'accord. Puis, les vins doux naturels, le Porto, les apéritifs, genre martini, des choses comme ça, ça passe bien.
Les trucs de filles, quoi.
Donc, tout ce qui est petite bière, après la journée,
disons, quand tout va bien, vous pouvez tout vous permettre, et puis quand vous sentez que c'est fragile et que ça a l'air de recommencer, vous vous mettez au régime maison de retraite.
D'accord.
On passe à l'eau, et puis voilà.
De toute façon, on n'est pas mort avec de l'eau.
Non.
Revanche, les 5 masturbations, ça, c'est conseillé.
Voilà.
Ouais, mais ça fait un peu beaucoup quand même dans la journée.
Pas après, on a un peu mal au poignet, on a mal au cou.
Non, mais okay. on plaisante.
C'est une plaisanterie, là, on rigole.
Et là, on rigole. Mmh. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut la faire fonctionner. Donc
non,
c'est...
non, faut que ça marche aussi.
Voilà.
Hein.
Tout à fait. Non, mais bon, le problème, problème autre part sexuel, ça, il n'y a pas de souci. Mais la prostate, je le dis, et pour d'autres auditeurs, quand ça prend le mal, ça fait vraiment mal, quoi.
À l'époque, on n'avait pas d'antibiotiques, on faisait des massages prostatiques. Enfin, pas moi, mais il y a une époque, parce que j'ai toujours connu les antibiotiques, heureusement pour moi et pour mes patients. Mais il y a une époque où il n'y avait rien et on faisait des massages prostatiques pour vider la prostate, pour faire excréter les canaux artificiellement.
Ah oui, d'accord, oui. C'est, mon conseil n'était pas stupide.
Il n'était pas stupide du tout, mais ils ne sont jamais stupides, vos conseils, Brigitte.
Merci.
Et quand on fait ça dans les laboratoires pour avoir les sécrétions, ça marche. Donc on sait que ça fait sortir les sécrétions de la prostate.
Évidemment. Merci David, en tout cas. Adélaïde est avec nous maintenant. Bonjour Adélaïde.
Bonjour Brigitte Laïe, bonjour à monsieur, à votre invité.
Bonjour Adélaïde.
Merci de m'avoir pris en antenne, je suis très émue.
Mais je vous en prie Adélaïde. Vous avez perdu votre mari d'un cancer de la prostate et vous voudriez savoir si c'est éventuellement héréditaire puisque vous avez des fils, c'est ça?
Voilà, j'ai deux garçons aujourd'hui, donc un garçon qui a 13 ans et puis le plus petit... Il va avoir 8 ans et j'aimerais bien savoir, enfin j'ai besoin de savoir, est-ce que c'est héréditaire, est-ce qu'ils ont besoin de plus de surveillance, quand et comment?
Alors oui Adélaïde, vos enfants, vos garçons ont plus de risques d'avoir un cancer de la prostate que la population générale, mais ça se déclenche plus tard, c'est-à-dire que si ça doit se déclencher, c'est plus à partir de 45 ans. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à surveiller un petit peu.
Mais pour par exemple leur père, et ça s'est déclenché, enfin personne s'est aperçu, et en 6 mois il est décédé. Et il avait que 40 ans.
Ah oui, ça arrive parfois très tôt, mais c'est très exceptionnel. Mais s'ils sont très, le dépistage est pas très compliqué si vous voulez. Hein. Il faut faire une prise de sang et un toucher rectal. Je veux dire que s'ils ont envie de commencer ça à 40 ans pour se rassurer, pour vous rassurer, ils ont le droit.
Oui. D'accord.
En tout cas, pour l'instant, il n'y a aucun souci à avoir avant 35 ans, 40
non,
ans.
Non, avant 35, 40 ans, sûrement pas.
Donc, il ne faut pas.
Moi, je me disais peut-être à partir de 30 ans, mais c'est trop tôt peut-être.
Ils peuvent le faire une fois, puis si tout est normal, ça les rassurera.
Parce que le risque, Adélaïde, c'est qu'il ne faut pas non plus vous mettre trop ça dans la tête, parce qu'à partir de ce moment-là, on a tendance
à. Il ne faut pas psychoter, comme on dit.
Exactement. On a tendance à produire ce qu'on craint. Hein.
Oui, c'est juste. Mais par exemple, comment est-ce possible, enfin la question restera toujours dans l'air, parce que le cancer de la prostate, c'est pour les personnes plus âgées, il s'est pas manifesté, il a vu une vie normale, bon, normale comme tous les hommes de 40 ans. Et après, ils n'ont rien pu faire. Enfin...
Alors, il a peut-être eu, mais je n'ai pas son dossier, donc il a peut-être eu un cancer un peu particulier, ça existe de temps en temps. Les cancers classiques, c'est plutôt chez les personnes âgées, effectivement. Et puis, le cancer de la prostate, il commence souvent à se développer à partir de l'extérieur, si vous voulez, de la périphérie de la prostate. Un peu comme si vous preniez, comparez ça à un œuf, ça va se développer à partir de la coquille. Donc, avant que ça donne des signes, il faudrait que ça arrive jusqu'au jaune. Et le temps que ça arrive jusqu'au jaune, il faut du temps. Et puis quand on commence à avoir des troubles urinaires et que le cancer se manifeste, il est déjà un peu gros. C'est pour ça que si on le dépiste avec le toucher rectal, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. On fait doser le PSA, on voit que le PSA n'est pas tout à fait normal et ça permet de le dépister très tôt.
C'est ça, parce qu'en fait, il faut arriver à le dépister avant qu'il fasse mal. Parce qu'une fois qu'il fait mal, c'est que déjà.
Une fois qu'on a du mal à
uriner,
c'est souvent déjà un peu avancé, oui.
Oui.
En parallèle, tous les ans, ils faisaient des prises de sang, des bilans sanguins, et ça n'a rien. Enfin, personne n'a pu voir quoi que ce soit.
Bah parce qu'avant 40 ans, on ne dose pas le PSA. On ne le demande pas de façon systématique.
Ce qu'il faudra faire pour vos fils quand ils auront 35-38 ans,
voilà,
par exemple.
Par exemple.
Voilà. D'accord. Je vous remercie.
Mais je vous en prie, Adélaïde, c'est des précisions qu'on a besoin d'avoir pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on fait une émission spéciale aujourd'hui sur la prostate. Et tout le monde a le droit d'appeler pour poser des questions, parce que je sais qu'il y a énormément d'interrogations. Oui. Et on est là pour ça.
Car je complète un tout petit peu rapidement. C'est pas seulement les fils, c'est tous les parents masculins de premier degré, c'est-à-dire oncles, neveux, frères, etc.
Oui, tous
les parents de premier degré.
D'accord.
C'est un peu la même chose que le cancer du sein, en quelque sorte, Michel Schumann,
voilà,
c'est ça. Hein,
oui, tout à fait.
Si on a quelqu'un dans sa famille proche donc qui a eu un cancer de prostate ou de sein, en tant qu'homme ou femme, donc à ce moment-là, il faut être
plus
prudent.
Même les cancers glandulaires chez les femmes de la famille favorisent un peu le cancer de la prostate.
D'accord.
Et le risque est augmenté. Voilà.
Je vous remercie. Excusez-moi, mon état. Je
vous en prie.
Mais on comprend très bien, Adélaïde.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Et on attrape notre fil d'Ariane. Trois études de scientifiques. Mais alors, je ne sais pas, parce que vous savez, Michel Schumann, les études scientifiques que nous trouve Ariane, elles sont quand même toujours assez curieuses.
Je ne sais pas où elle va aller chercher.
Oui, moi non plus. Hein. Mais en tout cas, il semblerait qu'elles peuvent prévenir du cancer de la prostate, donc nous sommes tout ouïes.
Alors, j'ai profité de ce jour en recevant donc Michel Schumann, le spécialiste de la prostate.
Elle en bafouille. Hors studio, elle m'appelle Mimi.
Oui, bien sûr, évidemment. Mon petit Mimi.
On le dira pas à votre mari.
Plus sérieusement, vous êtes notre caution scientifique pour valider ou infirmer ces résultats d'études, parce qu'on en voit des vertes et des pas mûres sur le net, et parfois, on ne sait plus quoi croire exactement.
Bah oui, mais je ne lis pas tout non plus, hein, donc.
Bien. En tous les cas, voilà la première étude québécoise de l'Université de Montréal et de l'INRS qui vous explique que si un homme couche avec plus de 20 femmes dans sa vie, eh bien, son risque de développer un cancer de la prostate baisserait de 28% et de 19% pour un type de cancer plus agressif. Et l'étude va encore plus loin en expliquant que si vous êtes homosexuel, la tendance est inverse. Les chercheurs canadiens vont donc vous expliquer que si un homme a des relations sexuelles avec plus de 20 partenaires masculins, il aurait deux fois plus de risques d'être victime d'un cancer de la prostate par rapport à ceux qui n'auraient jamais couché avec un autre homme. Et alors cette incohérence, parce que ça paraît invraisemblable, pourquoi en fonction de sa sexualité on développerait plus ou moins un cancer de la prostate, eh bien le professeur Marie-Élise Parent vous explique qu'il y a peut-être deux hypothèses qui expliqueraient cela. La première, c'est que lorsqu'on est homosexuel, on est peut-être plus exposé à des IST. Or, les IST vont provoquer une inflammation chronique et va créer un terrain propice au développement des cellules cancéreuses.
On peut dire que ça a du sens, ça, admettons.
Oui, mais ça,
c'est quand même bizarre.
C'est bizarre.
Il doit être un peu homophobe et puis très
ça a l'air un peu orienté.
Coureur,
d'accord, oui. Et la deuxième hypothèse qu'elle évoque, c'est que la pénétration anale produit un traumatisme physique à la prostate. Et c'est ça qui pourrait expliquer les risques de cancer de la prostate.
Ça peut provoquer des prostatites, hein, ça c'est possible. Même des petits hématomes périprostatiques, ça arrive.
Des prostatites, mais non pas un cancer de la prostate.
Pas un cancer, j'ai pas entendu ça.
Bon, ça a été révélé tout cela dans la revue scientifique Cancer Épidémiologie tout récemment. Ça, c'est la première. La deuxième, cette fois-ci, c'est anglais, dans le journal d'Urologie Internationale. On parle de la circoncision. La circoncision réduirait le risque de cancer de la prostate. Ils se sont intéressés cette fois à 2114 personnages masculins, dont la moitié avait développé un cancer de la prostate. Et l'étude démontre que ceux qui ont été circoncis ont réduit le risque de développer un cancer de 11%, un cancer de la prostate, et se topoise à 14% quand l'ablation du prépuce a été pratiquée lorsqu'ils étaient bébés, et atteint enfin le chiffre de 45% si l'opération a été réalisée après 35 ans. Vrai ou faux, Michel Schumann ?
Aucune idée. Est-ce qu'on l'a fait déjà avant la naissance ? Parce que je pense qu'il faut aller circoncire dans l'utérus.
C'est toujours pareil. Comme on ne sait pas si c'est des enquêtes qui ont été faites avec parallèlement des hommes.
Donc, je sais pas, sur 2000, il faut lire toute l'étude parce que les biais statistiques, c'est très facile d'avoir des biais statistiques.
Oui, c'est pour ça. Moi, je suis toujours très sceptique sur ces enquêtes. On ne sait pas, on n'a pas exactement si c'est fait avec les mêmes nombres d'hommes non circoncis et qu'on obtient mais là, voilà.
Puis il faut voir tous les autres facteurs environnementaux, hein, l'âge, l'ethnie, la famille.
Est-ce qu'on peut affirmer que la circoncision aide à prévenir le cancer de la prostate.
Je ne l'affirmerai pas.
Moi non plus.
Je pense que ça prévient d'autres choses, mais je ne l'affirmerai pas.
Et troisième étude, un orgasme par jour, voilà le diagnostic pour réduire les risques de cancer de la prostate. C'est cette fois-ci les chercheurs de la Harvard Medical School aux USA qui vous expliquent qu'un orgasme quotidien va effectivement prévenir ce cancer de la prostate. Et là, cette fois-ci, ils ont regardé le cas de 32 000 hommes, donc c'est un chiffre certain, de plus de 18 ans. Et 4 000 d'entre eux ont développé un cancer de la prostate durant cette longue étude. Et les scientifiques en ont conclu que les 40-49 ans devraient avoir au moins 21 éjaculations par mois pour réduire ce risque de la prostate, de cancer de la prostate de 22% par rapport à ceux qui n'auraient que 7 éjaculations par mois.
Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. Utilisez votre prostate. Quoi.
Voilà, c'est ça. Il faut s'en servir.
Mais il précise le chiffre de 21. Alors pourquoi 21 éjaculations? Voilà, donc je ne sais pas s'il si faut vraiment s'arrêter à un nombre précis.
19 ou 23.
Voilà, c'est ça.
Mais voilà un truc à faire, un compteur à éjaculation. voilà un outil qu'on pourrait mettre en vente.
Ça, c'est très romantique, Michel Schumann. Moi, je trouve ça formidable. Mon chéri, où il y en est, ton compteur?
Et après, vous partagez sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que ça marche, ce genre de truc. Vous savez, vos amis savent à quel moment vous avez éjaculé. C'est vraiment la tendance du moment, ça, de partager sur les réseaux.
Bon, Ariane, on se retrouve sur Facebook.
Pas de problème, Mimi.
Et quant à nous, on se retrouve dans un court instant avec Olivier qui voudrait parler de ses petits soucis d'érection. À tout de suite.
Sur RMC, ne ratez rien de l'AL Amourez-vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.
Un petit tour du côté de rmc.fr avec ce mail de Adrien qui nous parle également de sa prostate. Bonjour, j'ai moi-même essayé avec ma femme le massage prostatique, comme vous dites, avec un plug, et j'aurais voulu savoir si c'était mieux d'utiliser les doigts ou s'il y avait d'autres objets plus spécifiquement adaptés. Merci. Alors oui, il y a des objets qui sont particulièrement adaptés à la prostate, qui sont des objets. Bon, il y en a deux trois maintenant hein, qui existent dans le marché, voilà. Mais bon, on peut être aussi artisan hein, de toute façon.
Là, tout à fait. On peut fabriquer son propre matériel.
Oui, et on peut se servir de ses doigts, voilà. Je crois que c'est à chacun de s'amuser. Et puis encore une fois, moi j'ai envie de dire, c'est un peu comme le point G. Ça doit pas être une sorte de but
ça
en
faut
soi.
Pas que ce soit une obsession.
Voilà.
Ouais. Et puis il faut pas oublier de se limer les ongles.
Oui, ça c'est préférable parce que les hémorroïdes, ça peut faire très très mal.
Ah, oui.
Et voilà. Mais encore une fois, c'est à chacun de éventuellement d'explorer. Je crois qu'on n'est pas là non plus pour donner des injonctions.
Non,
il n'y
a pas de directive. Non.
Voilà. Mais il y a en effet, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un objet qui s'appelle Arnaldos ou quelque chose comme ça. Enfin bref, Aneros. Merci Ariane. Donc c'est un objet qui a été créé spécialement et qui paraît-il est très très bien pour tester le massage prostatique. Voilà.
D'accord. Bon. Mais parce qu'après l'érotisation de la région anale, ça tout le monde le connaît. Maintenant, la prostate c'est quand même à l'intérieur.
Mais oui.
Et il faut quand même savoir un petit peu où c'est. Alors est-ce que c'est juste la pénétration d'un objet qui peut déclencher la jouissance, ou est-ce que vraiment d'appuyer sur la prostate, il faut savoir où elle se trouve.
Voilà, c'est pour ça que cet objet-là est plus adapté que le plug le plus
simple,
ordinaire,
oui.
Évidemment.
Là est l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
Avec Michel Schumann, nous faisons le tour de la prostate et on répond à toutes vos questions et elles sont nombreuses. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre également au 3216. Je rappelle que Michel Schumann est urologue, andrologue, sexologue et chirurgien. Voilà, donc il sait de quoi on parle. Olivier, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte. Bonjour votre invité Michel.
Bonjour Olivier.
C'est curieux, on n'a que des hommes qui appellent pratiquement aujourd'hui.
C'est bizarre.
D'ailleurs, je voudrais faire une petite remarque sur l'intervention d'Ariane tout à l'heure. Les 21 éjaculations par mois, à mon avis, doivent être comptées en jour ouvré.
Ah oui, pas le dimanche alors, hein. Attention,
pas le dimanche,
c'est interdit.
Pas le non plus. Voilà.
Donc, on n'a pas interrogé les syndicalistes là-dessus.
Voilà. C'est peut-être que de l'amour au bureau finalement.
Ah bah voilà, belle mentalité Olivier.
Bravo. Hein. Bon, moi je vous appelle pour un autre petit souci, oui. Donc, comme j'expliquais sur le mail, donc nous sommes en couple depuis 22 ans avec ma compagne, libertin depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Mmh. Et je me suis rendu compte que depuis quelque temps, sur des pendant des rencontres avec d'autres couples, on est mélangiste échangiste. Hein. J'avais des soucis d'érection au moment de passer à l'acte, pas dans les jeux qui précèdent, les jeux de séduction, des danses, etc. Bon, on rencontre très peu en, mais plutôt en rencontre privée. Et donc pour se, entre guillemets, se mettre en condition, il y a des petits jeux de séduction. Donc pendant ces jeux-là, moi j'ai pas de soucis d'érection. Mais après, au moment de passer à l'acte, oui.
Oui, c'est au moment de la pénétration.
Non,
c'est ça. Oui.
Voilà, c'est ça. Même un petit peu avant, au moment de vouloir faire de vouloir recevoir des fellations, par exemple, ou de la masturbation, voilà. Là, tout s'en va.
Mm-hmm. Mais pas avec votre femme.
Et mais pas avec ma femme du tout.
Bah oui. Donc c'est clair, hein.
Par contre, j'ai déjà eu quand même des échanges qui sont bien finis, quoi. Donc voilà. Donc je me posais pas mal de questions, savoir d'où ça venait, d'où ça pouvait venir.
On voit bien qu'il doit y avoir un petit moment d'anxiété qui coupe tout, quoi. Alors après, est-ce que c'est parce qu'il y a eu un moment où qui a pas très bien fonctionné et depuis vous êtes inquiet? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas finalement, il y a une part de vous-même qui a pas tellement envie d'aller ailleurs que dans votre nid douillet qui est votre femme? Bon, on peut pas vous répondre comme ça, hein, mais à mon avis, c'est plus un problème psychique qu'anatomique.
Oui. Hein. Ouais.
Mais qui peut être en effet très handicapant, et si ça vous gêne, il faut vous faire aider d'une manière ou d'une autre.
Mais ça me gêne, oui, parce que bien évidemment, ça joue sur la suite de la soirée.
Mm-hmm. Oui, ça vous met en situation d'échec,
en difficulté. Vous avez l'impression de pas être à la hauteur, et puis après, l'angoisse de pas être à la hauteur ne fait qu'accentuer le phénomène. Donc c'est pas
ça.
Bon.
C'est ça. Et ma compagne aussi, ça l'embête, quoi.
Bien sûr.
Que, ça l'embête pour moi.
Vous avez essayé les petites pilules?
Non. Alors, j'ai pas essayé les petites pilules. La semaine dernière, je suis passé en sex shop pour acheter un vêtement pour ma femme. J'ai vu qu'il y avait des poppers et des machins, des trucs, qui me...
Poppers, je vous le déconseille. Non.
Ouais,
non, je parle de vrais médicaments qui sont prescrits par un médecin et qui sont délivrés par un pharmacien. Donc, on sait que on élimine tout ce qui est risque. Et puis, à partir de ce moment-là, vous prenez ça en toute tranquillité, en toute conscience, et vous êtes en pleine forme pendant toute la soirée, même toute la nuit.
D'accord. Alors, effectivement, on en a parlé ce week-end, enfin hier avec ma femme, et même ce matin. Donc, j'ai regardé, moi, sur Internet, sur le site du Syndicat National des Médecins Sexologues, pour prendre rendez-vous. J'ai téléphoné au médecin qui est le plus proche de chez moi, qui me dit de passer d'abord par mon médecin généraliste. Le problème, c'est que mon médecin généraliste, j'en ai une confiance toute relative concernant sa discrétion. Premièrement, donc vis-à-vis de lui, et j'ai aussi un autre souci qui me gêne un petit peu plus. Là, c'est plus un problème de c'est que je connais aussi très bien la secrétaire médicale. C'est une amie avec son mari. Ce sont un couple d'amis, quoi.
Mais en quoi ça pourrait vous gêner que vous preniez ces médicaments? Vous avez peur que toute la région soit au courant, c'est ça?
Non. C'est pas le souci du médicament. Le problème, je vous dis, c'est d'aller en parler à mon médecin et qu'il fasse un courrier et que donc ça soit sa secrétaire qui le fasse. J'ai pas envie que ça soit. Et surtout que lui, je vous dis, je sais qu'il y a déjà eu des problèmes de discrétion avec.
Allez voir un autre médecin. Vous allez voir n'importe qui. Vous savez ce que je sais pas ce que pourquoi le sexologue vous demande d'aller voir un médecin d'abord.
Pour avoir un courrier.
Peut-être parce que c'est lui. Oui, je sais pas ce qu'on fait avec un courrier. C'est pour respecter le parcours santé, peut-être. Le sexe.
Ouais,
je sais pas si c'est un sexe. Est-ce que c'est un sexologue qui prescrit des médicaments ou c'est un sexologue qui ne fait que des thérapies, qui n'est pas médecin peut-être lui-même.
Je ne sais pas du tout. Je l'ai eu au téléphone ce matin, mais c'était très bref. Il m'a demandé si j'étais déjà
venu voir. Non, mais il faut vérifier. Michel Schumann a raison, parce que s'il est sexothérapeute, c'est-à-dire uniquement
psy,
il peut pas vous prescrire de l'ordonnance de médicaments. Vous comprenez?
D'accord.
Donc il faut aller voir un médecin sexologue.
Il est inscrit au syndicat des médecins sexologues.
D'accord, donc il est médecin lui-même. Moi, vous savez, en tant que médecin sexologue, j'ai des patients qui viennent me voir directement. Je les oblige pas à passer par un généraliste avant. Ça va leur coûter un tout petit peu plus cher parce que il n'y a pas le parcours de soins qui a été respecté. Ça fait quelques euros de plus. Mais comme vous savez que ces médicaments-là, de toute façon, sont pas remboursés, donc ça fait pas une différence notable. Et ça vous laisse une grande liberté.
D'accord. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut que je le rappelle en disant que je ne passerai pas par mon médecin ou...
Pourquoi pas. Vous prenez rendez-vous, vous allez le voir, vous lui dites voilà.
Si c'est un bon médecin sexologue, il comprendra très très bien ce que vous êtes en train de nous dire et il vous recevra. Sinon, vous allez en voir un autre.
Ils sont loin après les autres.
Ah ben, quand on aime, on ne compte pas, Olivier. Hein.
C'est ça.
Mais de toute façon, oui, je crois que dans votre cas, il faut vous faire un petit peu aider pour lever cette anxiété qui s'est mise en place. Mais en tout cas, il n'y a rien de grave. C'est évident que c'est plus un
problème psychologique. Mais il n'y a pas de honte non plus à prendre les médicaments. Et si vous tenez à la discrétion, vous allez voir quelqu'un d'autre. Oui, c'est tout.
D'accord. J'avais aussi vu en recherchant des médecins qui ne sont pas donc inscrits sur ce site là, membres du syndicat, qui se marquent médecins sexologues, mais j'ai vu aussi en lisant qu'ils n'avaient pas forcément de compétences reconnues.
En principe, vous pouvez interroger le Conseil de l'Ordre. En principe, ça fait partie des spécialités médicales qui sont pas honorées comme spécialités, mais qui sont reconnues par l'Ordre. La médecine sexuelle est reconnue par l'Ordre. Donc un médecin qui se dit médecin sexologue est obligé d'avoir passé un diplôme.
De toute façon, Olivier, dans votre cas, vous n'avez pas spécialement besoin d'un bon sexologue. Vous avez juste besoin d'un médecin qui vous donne une ordonnance. Donc, même s'il n'est pas reconnu par le syndicat des médecins sexologues, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire, Olivier. Donc, vous pouvez vraiment aller voir, du moment qu'il est médecin et qu'il peut vous faire une ordonnance, vous n'avez pas besoin d'autre chose.
D'accord.
Donc, soyez plus...
soyez cool.
Cool, voilà.
Ah oui, non, mais ça, de ce côté-là, pour moi, il n'y a pas de souci.
Vous n'avez pas besoin d'un grand sorcier.
D'accord. Ni d'un grand Manitou. Non. Je n'ai pas cette prétention-là, de toute façon.
Voilà. Merci, Olivier, en tout cas.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Au revoir.
Christopher, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui. Bonjour, Brigitte, et bonjour, Monsieur Schumann.
Bonjour, Christopher.
Donc, vous voudriez aborder la question de la prostate avec votre femme. Pour quelle raison?
Mais parce qu'en fait, ça fait quelques années que j'ai l'habitude de me masturber, de me titiller la prostate, on va dire, en même temps. Et en fait, vu que moi, je...
Vous appréciez, vous aimeriez que votre femme s'en occupe. Est-ce que vous parlez librement entre vous ou pas?
Pas spécialement.
Oui,
ça va pas faciliter les choses.
C'est ça.
C'est vrai que c'est pas toujours simple, mais est-ce qu'elle est assez est-ce que vous avez quand même une sexualité qui va bien, assez harmonieuse?
Quand on le fait, oui, c'est génial. Après comme elle a accouché il y a 4 mois, elle a pas encore fait sa rééducation périnée, elle a encore sa pilule qui lui enlève l'envie de faire l'amour, donc là c'est un peu compliqué, mais quand ça sera le normal, ça sera très bien.
Et vous en avez déjà parlé un petit peu avec elle ou pas du tout?
Sur le ton de la rigolade.
Comment elle réagit?
Elle rigole et puis après, moi je vois, suivant comment elle réagit, je lui dis non, mais c'est pas vrai. Donc.
C'est vous qui coupez la possibilité là, alors quand vous dites ça.
Oui, après j'ai tellement peur de.
Mais oui, c'est ça votre souci, c'est
que vous êtes.
Oui, mais Christopher, je crois que c'est ça déjà qu'il faut arriver à travailler, c'est être plus cool par rapport à vous-même et par rapport éventuellement à ce qu'elle pourrait penser. Moi, je conseille souvent dans des cas comme le vôtre. Je veux dire par là, quand on aurait le désir que notre partenaire nous fasse quelque chose en particulier, je conseille plutôt de travailler, si je puis dire, avec les mains sur le terrain, que d'en parler et de faire des longs discours. Parce que de toute façon, ce qui se dit à froid n'est pas forcément ce qui se passera à chaud et vice-versa. Donc, quand vous reprendrez votre sexualité normale, déjà, essayez de voir si votre femme accepte que vous posiez sa main sur vos testicules, sur vos fesses, sur cette zone déjà plus ciblée.
D'accord.
Et puis si elle pose, si elle accepte, dites-lui que vous aimez beaucoup, et puis éventuellement, ben dites-lui que vous aimeriez bien qu'elle y mette un doigt. Enfin, vous voyez, amener les choses de manière tout à fait naturelle, mais sur le terrain.
D'accord.
Parce que dès que vous en parlez, d'abord elle se demande de quoi vous êtes en train de lui parler. Enfin, ça n'a pas beaucoup de. Enfin, moi je pense, sauf pour des couples qui sont en effet très libres et qui peuvent vraiment parler de tout, je pense que les discussions à froid, elles sont plus, elles vont plutôt aller dans l'autre sens que dans le bon sens.
Oui, Brigitte, t'as tout à fait raison. Hein. C'est sur le terrain qu'il faut y aller.
Ok. En voilà. Fait, quand on est un peu plus excité que d'habitude.
Voilà.
D'accord.
Et puis éventuellement utiliser un petit jouet plug par exemple pour elle, mm-hmm. pour essayer. Et puis c'est facile sur le, encore une fois pendant le rapport, de dire ça a l'air de tellement ça a l'air d'être chouette.
J'essaierai bien moi aussi.
Voilà,
oui.
Voyez.
Mm-hmm. Ouais, d'accord.
Et puis si elle voit que vous aimez, elle peut y prendre du plaisir simplement parce qu'elle verra que vous aimez. Oui, vous comprenez.
Mm-hmm. Tout à fait.
Et elle se posera pas plus de questions que ça.
D'accord.
Voilà.
Mais on va essayer ça comme ça alors.
Ouais.
C'est mieux.
Mais je vous remercie.
Je vous en prie, Christopher.
Bonne journée. Au revoir.
Bonne journée.
Et puis le Wikisexe du jour. Quelles sont les pathologies de la prostate, Michel Schumann, et comment les traiter en quelques mots?
En quelques mots. Bah, on l'a dit au début. Hein, les pathologies, c'est les infections antibiotiques, mais prolongées et bien suivies. Il vaut mieux voir un spécialiste si on fait une prostatite. Prostatite aiguë. Souvent, on a l'impression que c'est une grippe parce qu'on a 42 fièvres, on frissonne et on ne sait pas tout de suite. Et c'est seulement après qu'on a du mal à pisser. Et là, il faut aller vite. Et puis, les inflammations. Et puis, plus tard, c'est la grosse prostate qui gêne pour pisser. Là, il y a différents types de médicaments, mais qui fonctionnent très bien. Et puis, rarement, de plus en plus rarement, on est amené à opérer un petit peu pour faire de la place, pour pisser plus facilement. Mais on garde la prostate. Par contre, l'éjaculation, on prend souvent un petit coup. Et puis après, il y a les cancers de la prostate. Là, on en a parlé longuement tout à l'heure. Donc,
oui, là, c'est pareil. Il faut également traiter et pas attendre. Oui. Voilà, donc...
Le dépistage, c'est le dosage biologique et le toucher rectal. On peut, l'un sans l'autre, on est moins discriminant.
Très bien. Et qu'on commence à faire normalement à partir
à 50
ans. À partir de 50
ans. Sauf que des facteurs de risque familiaux ou ethniques, on commence à 45 ans.
Voilà. Donc on a fait à peu près le tour de tout ce qui peut provoquer des douleurs ou tout ce qui peut mettre la prostate en danger.
Quant au massage prostatique, j'ai une petite histoire si vous voulez.
Ah ben volontiers, Michel Schumann.
C'est Einstein qui raconte ça. Hein. Il dit, si vous tournez autour d'un arbre à la vitesse de la lumière, vous pouvez finir par vous enculer tout seul. Sinon, vous pouvez voter socialiste.
C'est Einstein.
Voilà.
Les réponses du Wikisex, bien sûr, vous les retrouvez sur rmc.fr. Si vous avez la moindre question, peut-être que la réponse y est déjà. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Bon, et ben après les infos, vous avez peut-être encore d'autres questions à poser. Et bien, n'hésitez pas, vous nous appelez au 3216. On se retrouve après les infos.